Bonjour à toutes et à tous. Il est 12h30, donc je ne perds pas un instant de cette précieuse heure de café scientifique. Donc simplement, je prends 30 secondes pour introduire le sujet. Ce café débat s'inscrit dans la programmation de l'exposition Mission Corps Humain, qui se trouve juste à côté et qui a ouvert ses portes il y a déjà quelques jours. Cette exposition présente les différents organes du corps humain, mais pas de façon complètement anatomique. Elle montre surtout les liens qu'il y a entre tous ces organes et surtout de la façon dont cela fonctionne. Et donc on voit à quel point c'est un organisme vivant est quelque chose de fragile. Il peut être fragilisé par beaucoup de choses, et certainement dans les médias vous avez entendu parler de bisphénol A, de parabènes, et il y a plein d'autres noms comme ça qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et donc c'est le sujet du jour, et pour cela, pour en parler, nous avons le plaisir d'inviter Dr Caroline Rouquier. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Je précise simplement que vous êtes gynécologue, obstétricienne et formatrice en santé et environnement. Je vous laisserai peut-être vous présenter avec de façon plus exhaustive. En tout cas, merci infiniment d'être venu aujourd'hui pour nous éclairer sur ce sujet et puis aussi de débattre et de répondre aux questions de cette assemblée qui, vous voyez, est venue en nombre. Docteur, merci infiniment et je vous laisse la parole.
Voilà, donc c'est un sujet un peu costaud, on va dire. Par contre, j'ai l'habitude de dire les choses clairement. Donc, normalement, vous devriez comprendre. J'ai envie d'aller assez loin dans les explications. Si c'est trop, vous dites stop, on ne comprend rien. Une demi-heure, c'est vraiment un marathon. Donc, attention, accrochez vos ceintures, on va démarrer. Et puis ensuite, on peut discuter. Mais il y a vraiment beaucoup de fondamentaux à poser. Alors moi, je suis gynécologue obstétricienne en retraite et j'ai travaillé en santé environnementale pendant plusieurs dizaines d'années. Pourquoi ? Parce que au cours de ma carrière, je me suis aperçue que mes patientes présentaient des pathologies qui évoluaient, qui n'étaient pas du tout les mêmes il y a 40 ans que maintenant, en particulier au niveau des fréquences des maladies thyroïdiennes et des maladies du sein, des cancers du sein. Et c'est tellement impressionnant qu'on se dit, là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut étudier pour savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose ou bien est-ce qu'on reste passif. Alors, c'est un sujet quand même qui peut être assez inquiétant. On va essayer de l'aborder sous un angle le plus positif possible. Donc, comme vous voyez, j'ai mis un petit peu de ciel bleu et un peu de nuage. À vous de voir quelle portion entre les deux vous... Voilà. Donc le but de ce petit exposé, on va tâcher de tenir le temps, c'est de voir quelques polluants de l'environnement, il y en a beaucoup, donc on ne va pas tous les regarder, de voir qu'est-ce qu'ils font sur la santé, si éventuellement il y en a quelques-uns qu'on peut éviter, on ne peut pas tout éviter, hein, ça c'est pas possible, et puis quelles solutions on peut trouver. Voilà le plan pour aujourd'hui. Donc, commencer par un état des lieux, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet. Ensuite, je vais vous rappeler des définitions, rappeler ou appeler, comme vous voulez, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Comment ça agit, ça c'est de la science d'actualité, je vais aller assez loin au fin fond de la cellule pour que vous compreniez ce qui se passe. Comment est-ce qu'on est en contact avec ces perturbateurs, où est-ce qu'il y en a, ce qu'ils entraînent comme problème, et à la fin des fins quand même, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Donc aujourd'hui, ça change tout le temps, parce que les chimistes ont beaucoup d'imagination. On est entouré par environ 140 000 substances chimiques, ça fait quand même pas mal. Et au XXe siècle, on s'est acharné à lutter contre les maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'on a progressivement réussi à pas complètement éliminé, mais enfin bien soigné, la tuberculose, on a découvert beaucoup d'antibiotiques, etc. Bon, aujourd'hui, on se confronte un peu au virus, ça c'est une deuxième histoire, mais dans l'intervalle, donc là, depuis une trentaine d'années à peu près, on a vu, ou 50 ans, apparaître et surtout augmenter en très très grande proportion les maladies non infectieuses, c'est-à-dire non transmissibles. Les maladies de chaque individu, mais quand il y a beaucoup d'individus, ça devient embêtant. Donc, les maladies métaboliques, Obésité, il suffit de regarder autour de vous, justement pas ici, c'est félicitations, mais il y a la population française en général est vraiment frappée d'obésité. La population américaine, on n'en parle même pas. L'obésité est reliée au diabète, et je vous montrerai après comment. Donc c'est, les troubles de l'immunité, c'est pareil, les allergies, ça explose. Les asthmes, les gamins aujourd'hui, il y en a un sur quatre qui est asthmatique. Avant, c'était absolument pas comme ça. Les maladies neurodégénératives. Et puis, au niveau de la reproduction, je vais vous montrer un petit peu plus tard ce qui se passe. Et les fréquences des cancers. Donc, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Comme vous voyez, 400 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà Hippocrate qui s'était aperçu que l'environnement était quelque chose de complètement essentiel en interaction avec l'individu. Et donc, c'est la première chose pour s'occuper d'un patient, c'était d'une part de voir où il habitait, enfin où il se déplaçait, où il vivait, et d'autre part ce qu'il mangeait. L'alimentation, je vous le dirai 150 fois, c'est vraiment le fondamental. On ne va pas rester longtemps là-dessus, c'est juste pour vous dire que 1960, on s'est aperçu que dans certaines régions, les oiseaux, il n'y avait plus d'oiseaux, donc printemps silencieux. Les crocodiles, ça a commencé comme ça, à côté d'une usine chimique, étaient tous devenus des crocodiles femelles. Ça paraît un peu rigolo, mais en fait, c'est pour montrer que c'est vraiment quelque chose de fort. Et ensuite, comment est-ce qu'on étudie ces perturbateurs ? Donc en faisant des expériences, en étudiant l'épidémiologie, c'est-à-dire combien il y a de cas, à quel moment, comment est-ce que ça évolue. Et puis en faisant des analyses, donc vous avez sûrement vu dans la presse, des études dans les cheveux des enfants, dans le sang du cordon ombilical, malheureusement, dans le lait maternel. Bon, ça fait un peu froid dans le dos. Le distilbène, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Voilà la première définition des perturbateurs. Alors celle-là, elle a été fixée par la Commission européenne. Ils ont mis très longtemps avant d'arriver à fabriquer une définition parce qu'une fois qu'on a une définition, on peut éventuellement légiférer sur quelle quantité est-ce qu'on peut tolérer. Tant que ce n'est pas défini, on est tranquille. Comme il y a des intérêts financiers assez importants, la définition a tardé. Donc vous voyez que ce sont des substances qui interfèrent avec le système endocrinien. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Endo, d'une part, c'est à l'intérieur, et crinien, c'est les glandes. Entraînent des effets nocifs sur la santé d'un individu sain, un organisme intact. Donc il n'avait rien et hop, il lui arrive quelque chose. Et non seulement à lui, mais aussi à ses descendants. Et donc, parmi toutes les substances chimiques qu'on avait vues avant, un millier, au sens très large, et on en découvre encore tous les jours, serait alors, le symbole PE, ça veut dire perturbateur endocrinien, vous allez le voir un peu partout. Donc voilà la définition. Là, on a d'une part les biocides, c'est le cercle orange foncé, parmi lesquels on a les pesticides, dont on entend parler assez souvent. Parmi les pesticides, on trouve les néonicotinoïdes, qui sont les insecticides les plus toxiques pour le système nerveux des insectes, et probablement pas que. Et parmi tout ça, on a les perturbateurs endocriniens. Donc vous voyez, il y en a une partie qui appartiennent aux pesticides et une partie qui sont à côté. Donc c'est pour ça que ce tableau permet vraiment bien de se représenter la part des choses. Juste pour vous donner une petite idée de tout ce qu'on peut tuer. Voilà, les insectes, les mollusques, les nématodes, les œufs, les parasites, les rongeurs, les taupes, le bois, enfin voilà. Donc là, c'est la grande famille des biocides. Donc sur le petit schéma précédent, il y avait une sous-partie qui s'appelle pesticides. Pourquoi est-ce qu'on distingue tout ça ? C'est parce que les réglementations ne sont pas les mêmes. Et le grand art des vendeurs de produits chimiques est d'essayer de jouer justement avec les classifications pour ne pas être soumis aux mêmes réglementations. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Les pesticides, cid, ça veut dire tuer. Peste, ça veut dire les fléaux. Donc, vous voyez, les algues, les microbes, les bactéries, là, on est quand même assez d'accord, mais peut-être pas forcément toutes les bactéries. On en a quand même un certain nombre qui nous protègent. Les acariens, alors, c'est bien de les tuer, mais enfin, si on peut aussi éviter qu'ils se multiplient, c'est plus simple et c'est moins toxique. Et puis, voilà, les fongicides, alors, ceux-là, ils sont assez redoutables parce que les deux derniers, fongicides, herbicides, quand on les utilise tout seul, déjà ils sont toxiques, mais quand on les associe les deux, là ils prennent une toxicité multipliée par 100. Sauf que les firmes, quand ils vous vendent leurs produits, ils ont fait leur test sur juste l'une des catégories. Et donc, ce que vous achetez, c'est tout simplement 100 fois plus toxique. Rapidement, donc, pesticides, on peut en trouver sur le sol quand l'agriculteur l'a épandu. J'ai absolument rien contre les agriculteurs, au contraire. Hein. Voilà. Ensuite, du sol, il y en a une petite partie qui va sur la plante, environ 10%, ou une grande partie qui va dans l'air et qui va donc toucher les populations qui sont à côté. Donc les riverains sont soumis au même danger, presque. Ensuite, ça va dans l'eau et ensuite, vous pouvez donc boire les pesticides pendant un certain temps parce que ça reste dans le sol pendant longtemps. On va continuer dans les définitions. On arrive au niveau des glandes endocrines. Donc, endo, c'est parce que c'est à l'intérieur, et crine, c'est les sécrétions qui vont à l'intérieur. On va s'intéresser à quelques-unes en particulier, ça va déjà bien nous occuper. On a la thyroïde, qui est là, au milieu du cou. On a le pancréas, qui est sous les côtes. Et on a les glandes génitales, donc les ovaires et les testicules. Alors, les autres ont aussi un rôle, mais enfin, aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout. Alors, tout le monde a ses glandes. Ces glandes fabriquent des hormones. Donc, on entend parler des hormones, c'est diabolique, etc. Ben, je vais vous dire, heureusement qu'on en a, parce que c'est quand même vraiment super important d'avoir des hormones. Donc, on a des hormones thyroïdiennes, des hormones ovariennes, des hormones qui viennent du pancréas, donc qui sont fabriquées par les glandes, et ces messagers vont aller dans le sang, donc c'est pour ça que c'est endo, et depuis le sang, elles vont aller agir sur des organes cibles, donc à distance. Et sur l'organe cible, on a des récepteurs. Alors ça, c'est quand même assez clair, hein, ça vous paraît... Voilà. On va voir pourquoi la suite de l'histoire. Donc l'hormone, elle va soit permettre à l'individu de se développer, soit réguler la tension, la température, le transit, etc. Soit participer justement aux équilibres. Hein. Et au niveau de la thyroïde, qui agit aussi sur le cœur, sur l'intestin, etc., elle agit beaucoup au niveau du cerveau, pendant la vie fœtale. Donc on va parler de la vie fœtale un certain nombre de fois. Voilà, maintenant, le perturbateur qui arrive dans ce beau fonctionnement, qui fonctionne normalement assez bien, avec des doses extrêmement faibles. Donc la glande a fabriqué l'hormone va dans le sang. Depuis là, elle va se fixer sur le récepteur de l'organe cible. Et ensuite, ça va provoquer l'expression du gène. En général, un gène, ça va faire synthétiser une protéine par la cellule. Donc, vous voyez que le perturbateur, il peut agir à plein d'endroits. Soit un endroit, soit plusieurs endroits. Soit une glande, soit plusieurs glandes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, soit au niveau de la fabrication, le perturbateur empêche la glande de fabriquer. Soit au niveau du transport... Il se bloque sur le transporteur, du coup l'hormone n'est plus transportée, elle ne va plus là où elle doit faire son travail. Soit sur le récepteur, et à ce moment-là, on a deux solutions. Ça empêche le récepteur de recevoir l'information, donc c'est bloqué. Soit ça va stimuler, et à ce moment-là, on a une double information, c'est-à-dire que l'organisme va croire qu'il y a un ordre de fabrication, en particulier des estrogènes, et en fait, ce n'est pas vrai. Donc, on a activation, blocage ou un moment inadapté. Parce que tout ça, c'est une horloge extrêmement précise qui fonctionne de façon harmonieuse, sauf quand on a des perturbateurs. Et voilà la diapositive qui me paraît vraiment essentielle. C'est-à-dire que ce perturbateur va agir, comme vous avez vu, pour exprimer les gènes, mais il va le modifier, le perturber. Il va agir pas forcément tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'effet de latence. Donc on peut avoir une imprégnation à certains moments sensibles, c'est ce qu'on appelle fenêtre de vulnérabilité. Donc soit pendant la grossesse, donc pendant la vie fœtale, soit pendant la petite enfance, vous allez voir pourquoi, soit au moment de l'adolescence, qui sont toutes les périodes un peu où les hormones qui sont fabriquées spontanément par l'individu subissent des grosses variations. Vous voyez qu'au moment de l'adolescence, par exemple, On a la sécrétion des estrogènes qui se met en place de façon cyclique. On a la sécrétion de testostérone qui peut éventuellement entraîner, je sais pas, on va dire quelques petits boutons par-ci par-là. Enfin, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une espèce d'orage endocrine à ce moment-là. Et donc, le perturbateur à ce moment-là, il a une action beaucoup plus violente. Le souci, c'est qu'on a un produit quand même bizarre qui peut agir sur la génération suivante et même celle d'après. Or, il modifie l'expression du gène, mais il ne modifie pas le gène. C'est pas ce qu'on appelle un génotoxique. C'est juste la façon d'agir que je vous ai montré avant qui va permettre de fixer certains radicaux sur le fonctionnement des enzymes et ensuite ça va pouvoir se transmettre. C'est ce qu'on a vu avec Distilben. Et d'autre part, au niveau des doses, on a là un procédé assez particulier, c'est-à-dire qu'avant, on pensait qu'un poison, il était de plus en plus toxique selon qu'on avait une dose de plus en plus forte. Et là, on s'aperçoit que des doses extrêmement faibles sont actives. Donc, vous voyez rapidement ce que je vous ai déjà dit, mais on le dit une deuxième fois. On a des cellules. Dans chaque cellule, il y a le noyau. Dans le noyau, il y a les chromosomes. Dans chaque chromosome, on a les filaments d'ADN. Et autour de cet individu, il y a les facteurs qui peuvent perturber l'expression. Voilà comment est-ce qu'on reste en bonne santé et combien on devient malade. Donc on a un patrimoine génétique au moment où on est. Dans le cours de la vie, on accumule les polluants, plus ou moins. Les gens qui ont une sensibilité génétique particulière peuvent avoir une anomalie qui va se mettre en place un peu plus rapidement. L'âge, pour l'instant, on ne peut pas changer grand-chose. Et à un moment, on bascule de la santé vers la maladie. Donc, pour éviter ça, on peut essayer de diminuer le nombre de polluants. Et donc, vous voyez la grosse part de l'épigénétique, c'est-à-dire de tout ce qui entoure l'individu. Comment est-ce que les perturbateurs rentrent dans l'organisme ? Eh bien, malheureusement, par le placenta, qui ne filtre pas un certain nombre de composés chimiques. Et sinon, ça c'est une diapo qui concerne les enfants, mais chez les adultes c'est exactement la même chose, par l'alimentation. Dans la population générale, l'alimentation est vraiment un point énorme à prendre en compte. Donc aussi bien par voie aérienne, vous avez vu tout à l'heure que les pesticides, là, on peut en respirer autant qu'on veut, et par la peau. La peau c'est une immense surface, c'est perméable et aussi imperméable, mais c'est perméable à beaucoup de substances chimiques. Donc ce petit gamin qui se met de la crème, pourquoi pas, crème solaire, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est quand même une mauvaise idée. Donc il vaut mieux se protéger du soleil en mettant un vêtement qu'en mettant de la crème. Il y en a beaucoup qui sont perturbateurs endocriniens. Voilà une petite liste. On se dit, oula, mais qu'est-ce qui reste de normal ? Pas grand-chose. Donc l'air, l'alimentation, les produits ménagers, les cosmétiques, les jouets, les vêtements. On ne va pas tout voir, ce n'est pas possible en 5 minutes. Vous voyez que dans le cordon ombilical vont rentrer un peu toutes ces substances. On a en plus certaines professions qui sont plus exposées que le reste de la population. Alors c'est entre guillemets grâce à eux qu'on a pu faire des études épidémiologiques, c'est-à-dire voir apparaître des pathologies d'une façon plus importante. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas ces professions-là sont à l'abri de tout. Donc les agriculteurs, bien que quand ils sont dans leur cabine ultra protégée, ils espèrent ne pas trop respirer leurs produits, sauf que quand ils rentrent chez eux et qu'ils enlèvent leurs vêtements ou sous les chaussures, on retrouve tous les pesticides et les enfants d'agriculteurs sont particulièrement exposés. Les viticulteurs, les arboriculteurs qui eux utilisent beaucoup beaucoup de produits, les jardiniers, les dentistes, les coiffeurs, les produits de cosmétiques sont pas toujours recommandables. Et puis on s'est aperçu aussi que les gens qui faisaient le ménage étaient exposés pratiquement avec le même risque qu'un fumeur de 2 paquets par jour. Donc pour dire que voilà, produits ménagers, on va en reparler si on a le temps. Oui, on aura le temps. Voilà. Donc voilà, chez la femme enceinte, la santé de la femme, la santé du fœtus et la santé des descendants. C'est quand même des produits particuliers pour que ça atteigne plusieurs générations. Pourquoi est-ce que le bébé a une fragilité ? parce qu'il se développe beaucoup. Donc sur chaque cellule, il peut y avoir l'action du fameux perturbateur, parce qu'il n'a pas encore une immunité très forte, parce que son foie n'est pas capable d'éliminer un certain nombre de substances, parce que des doses encore plus petites peuvent être toxiques. Et surtout, c'est ce que je n'ai pas assez développé sur la diapo précédente, l'effet cocktail, c'est-à-dire, je vous ai parlé herbicide, fongicide, mais beaucoup de substances chimiques se combinent entre elles pour devenir 10 fois, 100 fois plus toxiques. Donc, où est-ce qu'on les trouve, hein, c'était, ça faisait partie du... Voilà. On en trouve un peu partout autour de nous. Et vous avez là une liste non exhaustive. Donc, les bisphénols, on en a entendu parler. Le A, il a été pas mal réglementé. Il est remplacé par d'autres qui ne sont pas forcément plus recommandables. Les pesticides, on pourra en débattre après. Les parabènes sont des conservateurs que normalement on aimerait ne plus voir, mais il y en a toute une série. Même dans les médicaments, d'ailleurs, si vous regardez sur les boîtes de médicaments, en fait, on a des informations, il faut lire. Le problème, c'est que lire, il faut prendre une loupe, il faut grossir, etc. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a des parabènes par-ci, par-là. Les phtalates, c'est ceux qu'on trouve dans les plastiques étirables, dans tous les films plastiques. Le phénoxyéthanol, c'est un conservateur dans les cosmétiques. Les dioxines, c'est ce qu'on trouve dans les fumées des incinérateurs. Les filtres UV, je vous en ai dit un tout petit mot. Alkylphénol, ils sont aussi assez répandus. Vous retrouvez le même mot phénol que bisphénol. Donc alkyl, c'est pas mieux. Hein. Et les composés perfluorés, c'est ceux qui sont anti-adhésifs. Donc à chaque fois que vous voyez quelque chose qui glisse, ça a été découvert par hasard. Ça veut dire qu'on a des composés qui sont particulièrement embêtants parce que ceux-là, ils restent très longtemps dans l'eau, dans le sol, dans le corps. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Voilà pour l'alkylphénol. On va passer. Alors l'INSERM a fait des études importantes 2013, actualisées en 2021 sur les pesticides. Et vous voyez les pathologies qui ont... Donc il y a une pathologie qui est reconnue comme maladie professionnelle, c'est la maladie de Parkinson. Et les autres, on s'est aperçu que les fréquences étaient énormément augmentées. Donc ça permet de faire un lien, ce qu'ils appellent un lien fort, c'est-à-dire on n'a pas forcément... En même temps, c'est un lien de cause à effet et en même temps, c'est un facteur facilitant, on va dire. Les troubles comportementaux chez les enfants, ça c'est quelque chose d'assez ennuyeux parce qu'on s'aperçoit que les hyperactivités ou les troubles du spectre autistique sont en forte augmentation, assez probablement, donc ce qu'on appelle lien fort, avec l'environnement. Et alors, je vous ai parlé un tout petit peu des abeilles, je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse, parce que c'est des sujets d'études intéressants. Évidemment, ce sont des insectes, mais quand même, on a le mode d'action du pesticide dessus. Et comme on a des grosses populations, environ 40 000 individus, c'est facile de faire des statistiques. On retrouve la notion d'exposome, qui permet quand même de se rendre compte que 40% des cancers pourraient être évités. C'est assez faramineux. Les trois vont se combiner ensemble. Hein. Je suis désolée d'aller vite, hein, mais voilà, il ne reste plus beaucoup de temps. Vous retrouvez des phtalates dans les plastiques souples et dans les cosmétiques. À savoir sur le bisphénol, ça c'est quand même assez intéressant. Quand il a été étudié par les chimistes au début, il devait être commercialisé comme médicament estrogène, imitant l'estrogène, comme le distilbène. Donc c'est une molécule pratiquement pareille, mais bisphénol, il est passé comme ça dans la circulation générale, alors que distilbène a soumis les réglementations des médicaments. Alors là, il faut aussi voir un petit peu, on n'est pas obligé de tout regarder, mais vous voyez que quand on observe juste deux, trois choses, si vous voulez. On retrouve donc les cosmétiques, les produits ménagers, les ustensiles de cuisine, les canettes, les colles qui contiennent du formaldéhyde et les phtalates. Tout ça va gentiment se concentrer dans l'individu, en particulier dans ses cellules grasses. On va voir ça tout de suite. Alors, au niveau reproducteur, donc c'est par là que moi j'ai commencé la santé environnementale, on s'est aperçu que la fertilité des hommes avait diminué de moitié en l'espace de 50 ans. Ça fait quand même beaucoup, hein. Il y a 50 ans, on avait des spermogrammes normaux aux alentours de 80 millions de spermatozoïdes avec 80% de mobiles. Et aujourd'hui, c'est normal à peu près à 20 millions, 20, 30 millions. Donc là, un couple sur sept consulte pour hypofertilité. Des anomalies de formation du système reproducteur chez l'enfant, fréquentes, bon, donc avec une fréquence multipliée par 4 chez les enfants d'agriculteurs. Les petites filles en particulier, c'était bien étudié par le professeur Sultan à Montpellier sur les filles qui boivent l'eau et mangent les légumes qui sont irrigués par la partie basse du Rhône et qui se retrouvent avec des seins et des règles avant 8 ans. C'est quand même pas tout à fait idéal. Et les trois cancers principalement visés par les anomalies endocriniennes, prostate, testicule et sein. Voilà, j'aime bien cette diapo. Les pesticides ne tuent pas que les mauvaises herbes. Et alors là, ça c'est important aussi parce que pourquoi est-ce que l'obésité est vraiment grave et comment est-ce qu'il y a un lien entre perturbateurs et obésité? Donc l'obésité peut être associée au diabète. Le diabète a lui-même plein de complications. Peut être fait partie de l'augmentation de fréquence des cancers du sein, de l'estomac, du côlon, du foie, du pancréas. Voilà. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de ne pas être obèse, c'est quand même vraiment beaucoup mieux. Malheureusement, tous les perturbateurs endocriniens agissent sur cette cellule qui s'appelle adipocyte et donc vont stimuler le nombre et stimuler la grosseur. Voilà. Et dans l'adipocyte vont se fixer de façon pérenne les perturbateurs qui s'accumulent, donc ce qu'on appelle POP, perturbateurs organiques persistants. Les organochlorés, en particulier la chlordécone, ceux-là on en a entendu parler, aux Antilles, fréquence du cancer de la prostate, et pour l'instant il n'y a pas du tout d'amélioration au niveau du taux qu'on peut mesurer. Les maladies neurologiques, je vous ai déjà dit un petit mot. Dans la maison, voilà, on va en reparler. Dans l'alimentation, alors là, vous en trouvez partout. Mais vous en trouvez surtout là où c'est gras, là où vous avez du plastique et là où vous avez des pesticides, pour faire court, hein, avec le problème des perfluorés, ce qu'on voit PFOA en bas, c'est-à-dire les anti-adhésifs. Donc si vous avez la possibilité, on va quand même essayer d'aborder en 2 minutes quelques solutions, puis ensuite vous pourrez poser des questions. Ceux qui sont les plus contaminés, les pommes. Donc c'est un excellent aliment quand il est sain. C'est-à-dire que toujours vous épluchez, toujours vous lavez. Et toujours ou le plus souvent possible, vous les achetez en bio. Les salades, c'est la même chose. Et vraiment majeur, c'est le blé, donc la farine, donc les pâtes. À chaque fois que vous pouvez acheter ça en bio, vraiment, vous éliminez la moitié de la contamination pesticide. Parce que le nombre de fois où le blé est traité, pendant la culture, pendant la conservation, pendant la farine, etc., ça laisse rêveur. Voilà, le plastique, on dira jamais assez que vraiment il faut s'en passer par rapport à l'alimentation et par rapport à l'usage en général. Dans la mesure où, d'une part, c'est un dérivé de la pétrochimie, donc si on veut essayer de diminuer les importations de pétrole, ce serait une idée. D'autre part, au niveau de la consommation, ça c'est vraiment essentiel, parce qu'il y a d'autres solutions. On peut tout à fait avoir des bouteilles en inox, des récipients en verre, et on sait qu'il y a plus d'interférences entre le gras, l'acide et quand on chauffe. Donc si vous avez des boîtes en plastique pour mettre votre salade avec du vinaigre, ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, je vous rappelle le raton laveur. Dans les produits ménagers, on a vu un petit peu qu'il y avait beaucoup de choses pas possibles. Et donc une solution assez simple, c'est de laver avec de l'eau. Vous n'avez pas besoin de mettre 15 produits, 25 produits dans votre maison. Surtout s'il y a des enfants, moins il y a de produits, mieux on se porte. Voilà. Avec une action qui est en train d'être étudié, mais qui est assez probable. Donc, pour l'instant, le lien n'est pas, il n'y a pas suffisamment d'études pour être complètement affirmatif, mais des études qui vont sur l'influence du microbiote, donc des perturbations à ce niveau-là, qui entraînent une modification de la perméabilité de l'intestin. Et donc, les perturbateurs vont plus aller dans l'organisme. Et ce microbiote a une interrelation avec le fonctionnement du système nerveux. Ça coûte pas cher. Et vraiment, ça change les choses parce que les polluants atmosphériques, ils sont concentrés dans la maison. Donc, même si vous habitez à côté de l'autoroute, vous ouvrez la fenêtre. Pas au pic de circulation, mais vous ouvrez les fenêtres. On dit, il y a eu des études qui ont été faites sur les purificateurs d'air, etc., faites par l'ANSES, l'Agence nationale santé environnement, qui ont montré que tous les purificateurs d'air, on a étudié toutes les catégories, étaient moins efficaces que d'ouvrir la fenêtre. Donc, ce n'est pas la peine d'en acheter. Alors, évidemment, en cas de problèmes viraux, etc., ben, on met une doudoune, surtout quand on fait le ménage, et on utilise de l'eau. Ça lave très, très bien. Éventuellement, avec un peu de vinaigre, il n'y a pas besoin d'autre chose. Les cosmétiques, je vous laisse rêver sur ce qu'il y a dans un cosmétique. Donc après, vous pouvez lire la composition. C'est absolument impossible à comprendre parce que c'est souvent écrit en latin. Mais vous pouvez aussi en utiliser peu et en utiliser qui ont peu de composés. Parce qu'on revient toujours à la même histoire de ne pas faire de mélange. Voilà. Alors vous avez quand même une petite bouée de sauvetage. C'est les labels. Donc la charte Cosme Bio. Attention, il faut bien qu'il y ait ces trois mots qui soient marqués sur le label. Le label, c'est une petite étiquette qui est mise sur le produit. Parce qu'il y a eu des imitateurs qui ont mis seulement bio au milieu, puis qui n'ont pas mis charte Cosme Bio en dessous. Donc là, on a quand même vraiment moins de substances indésirables. Et Natru, ça, c'en est un qui est très fiable, mais souvent, c'est marqué en tout petit. Donc, dans une maison, ben, on va passer. Dans les jouets, vous essayez de trouver des jouets qui ne sont pas en plastique. Voilà, surtout pour les gamins. Alors, il y a des normes, hein, il y a des règlements, etc. Chez les petits, jusqu'à 2-3 ans, 2 ans, c'est marqué. Il y a des précautions. Puis après ça, à 3 ans, ah ben non, il n'y a plus besoin de prendre les précautions. C'est quand même un peu fou. Voilà, donc là, voilà quelques labels qui peuvent vous permettre de vous repérer. Donc déjà, si vous pouvez choisir agriculture biologique assez souvent, si vous connaissez des femmes enceintes autour de vous, dites à la belle maman qu'elle lui offre des légumes bio pendant toute sa grossesse. Vraiment, c'est essentiel. Hein. Et du pain bio, c'est pas une vue de l'esprit. Donc, dans la mesure où vous avez un porte-monnaie dans votre poche, qu'il soit très rempli ou peu rempli, vous choisissez à qui est-ce que vous donnez votre argent. Et essayez de faire des économies sur les produits ménagers pour acheter des aliments de bonne qualité. Vous pouvez faire vous-même beaucoup de choses, c'est pas la peine d'acheter des trucs tout transformés. Et vous pouvez vous informer, donc merci d'être venu. Et ensuite, je vais vous donner encore d'autres sites où vous pouvez aller regarder. Voilà, je vais vous le repasser après. Je vais prendre encore juste une minute pour vous dire pourquoi est-ce que ces substances qui sont quand même horribles sont sur le marché malgré les réglementations. Alors voilà, ça c'est l'espoir que nos enfants aient quand même un monde où il y a encore quelques abeilles. Et je vais juste vous montrer ça. Pourquoi est-ce que les firmes vendent les produits ? Parce qu'ils ont des techniques extrêmement bien rodées. Vous pouvez aller voir le film Goliath, vous serez édifié, qui s'appelle La fabrique du doute. Donc au lieu d'appeler ça perturbateur endocrinien, ils ont essayé de faire passer modulateur. Bon, heureusement, ce n'est pas passé. Parce qu'après ça, on n'est pas inquiet, ça module, bon, ce n'est pas un problème. Phytosanitaire, donc si on met sanitaire, on se dit, tiens, ça doit être bien pour tout le monde. Bayer a comme logo Science pour une vie meilleure, on ne sait pas pour qui, c'est meilleur pour les actionnaires de Bayer surtout. Hein. Les industriels prennent en compte les attentes de la société, ça veut dire que les gens veulent, les consommateurs, enfin un certain nombre, veulent des belles pommes toutes rondes, toutes rouges et toutes parfaites, et du coup ils disent, ah ben oui, nous on va faire ça, il n'y a pas de problème, on sait faire. Ce sont les agriculteurs qui sont responsables, c'est eux qui polluent et c'est eux qui sont malades parce qu'ils ont mal utilisé nos produits ou parce qu'ils ne se sont pas bien protégés. Ils disent, ah mais nous, on est les sauveteurs de l'humanité, ça, c'est sûr. Indosable, c'est quand on... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. ne permet pas de conclure, c'est-à-dire que dès qu'on est dans le doute, eh bien, tout le monde se dit « ah oui, effectivement, il y a des doutes ». Les exigences réglementaires, le seul souci, c'est que les réglementations sont faites par les agences nationales et européennes qui sont parfois en collusion d'intérêts avec certaines personnes qui peuvent en coulisses modifier, enfin influencer pour que les règlements soient favorables à l'industrie dans la mesure où les tests sont faits par les industriels. Donc après ça, de savoir si ce sont des tests représentatifs ou pas, c'est une autre histoire. Et on peut, comme je vous disais, là, entre les pesticides et les biocides, faire passer un produit plutôt dans une catégorie. Du coup, on a moins d'impératifs au niveau des réglementations. Sauf que le sulfoxaflor, il tue les abeilles exactement de la même façon que les néonicotinoïdes. On dit, ah ben non, le bio, c'est vraiment pour des babacools émigrés. Les études scientifiques, malheureusement, il y a des scientifiques qui prêtent leur nom pour signer des études. C'est avéré. Les lanceurs d'alerte sont en mauvaise posture. Alors, peut-être qu'il y aura un petit mieux, mais il y a aussi des tentatives dangereuses. Et pour vous dire comment fonctionne Bayer, ce n'est pas le seul. Voilà. L'imidacloprid est une matière dangereuse, mais les abeilles ne sont exposées à aucun risque. Ben voilà, pourquoi pas. Et en fait, les abeilles butinent les plantes traitées. On a étudié la mortalité aiguë, donc combien de doses il faut mettre sur une ruche pour que toutes les abeilles soient mortes, sauf qu'on a oublié la même chose que dans la pathologie humaine, de savoir ce qui se passe quand ça, c'est une intoxication chronique, c'est-à-dire que il y a des atteintes du système nerveux, il y a des atteintes de la reproduction, il y a des atteintes de l'immunité. Cherchez l'erreur. Alors, je vais vous remettre voilà, la bibliographie, mais de toute façon elle sera publiée. Rémi Slama donne cette semaine et les semaines qui viennent des conférences au Collège de France sur les liens santé et environnement, donc vous pouvez les télécharger et les revoir après si vous voulez. Et quelques livres, j'en ai apporté un là qui est simple. Sinon, grand ménage, là, c'est simplement pour dire qu'on peut vraiment faire le ménage chez soi d'une façon très simple. Livre antitoxique, celui-là, il est facile à lire. Donc, on fait le tour de la maison depuis le matin jusqu'au soir et on s'aperçoit de là où il y a des choses où il faut faire attention. Et puis, produits ménagers, voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, docteur, pour la concision de cette intervention. Félicitations pour le timing. Alors, j'ai quand même vu quelques nuages dans la première diapo, finalement. Mais il y avait quelques rayons de soleil vers la fin. Qui veut poser la première question ?
Merci. On m'a conseillé récemment de la sève de bouleau pour détoxifier l'organisme. C'est valable ?
Oui, ça participe. Disons qu'on peut essayer de détoxifier et on peut essayer de moins s'intoxiquer. Voilà. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut au niveau prévention. Et malheureusement, en France, on n'a pas cette culture de la prévention, en tout cas pas beaucoup au niveau des autorités.
Mais c'est quelque chose qui est efficace.
Oui.
Bon, moi, c'est une réflexion toute bête, en fait, principalement concernant les cosmétiques. Pourquoi on ne pourrait pas obliger les fabricants à indiquer, par exemple, comme dans l'alimentaire, une lettre sur leur emballage, de A à E, par exemple, comme on le fait pour la sécurité alimentaire en général ?
Oui, ce serait intéressant. On n'en est pas là.
Bah, oui, mais bon, je suppose que la réglementation REACH a dû réfléchir à ça. Donc...
Tout à fait, oui. Bah, on est obligé.
Quand vous choisissez un produit, c'est quand même la solution la plus simple.
Oui.
Vous avez une lettre.
Mais après ça, qu'est-ce qu'on met en dessous ? Voilà, quels sont les critères ? Et ça, c'est pas évident du tout de définir que tout le monde soit d'accord sur les critères de choix. Parce que par exemple, dans l'alimentation, vous avez le Nutri-Score où sur les produits gras, le Nutri-Score est mauvais, mais enfin eux ou je sais pas quoi. Mais en fait, ça fait partie d'une alimentation normale en très petite quantité. Ça ne veut pas dire que le produit en lui-même, il faut le mettre... Voilà.
Et une question aussi assez basique. Vous parliez des fruits tout à l'heure, mais si on fait un rinçage assez poussé d'un fruit, on n'élimine pas le, pesticides qui sont sur la peau, ils sont vraiment à l'intérieur du fruit.
Vous avez raison, c'est toujours mieux de laver que de ne pas laver, mais ça ne suffit pas. Il y a eu des études qui ont montré que sur une pomme, un pesticide pénètre à 2 cm de profondeur. Donc après, il ne reste plus grand-chose à manger. Hein.
Je me méfie aussi parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais si tu achètes bio et que la parcelle elle est à côté d'une parcelle pas bio, donc comment on peut savoir après, est-ce qu'il y a des réglementations quand c'est bio, que ce ne soit pas à côté de, au milieu d'un champ d'agriculteur pas bio ?
Vous avez tout à fait raison. Alors, si une parcelle bio est à côté d'une parcelle pas bio, il peut y avoir des contaminations. Le bio, c'est une charte d'obligation de moyens, pas de résultats. Et donc, on continue quand même à prendre des précautions, à laver les légumes, etc., même s'ils sont bio. Par contre, ils n'ont pas été traités intentionnellement 40 fois pour les pommes, 25 fois pour le blé, ou je ne sais plus quoi. Enfin, bon, je ne me rappelle plus les nombres, mais c'est hallucinant. Donc, c'est toujours mieux. Après ça, comme j'ai dit au début, on ne peut pas tout éviter. Sauf si vous connaissez le producteur et vous savez où il est, au milieu de la Creuse, ou je ne sais pas, mais...
Bonjour, je suppose que les capsules de café en alu sont nocives. Alors, on les fait chauffer, non?
Ah ben, quand ça chauffe, ça stimule les échanges. Hein. C'est ce qu'on fait dans toutes les expériences de chimie, on chauffe.
Comment est-ce qu'on doit faire la différence entre des PE qui sont par exemple dans une crème solaire et des textiles qu'on va mettre pour se protéger du soleil par exemple?
Alors, dans la crème, vous le tartinez sur la peau en direct et sur une grande surface qu'on vous dit de renouveler toutes les 2 heures. Donc déjà, vous avez une première possibilité, c'est d'utiliser des filtres minéraux et non pas des filtres chimiques. Donc là, vous évitez une partie du problème, sachant que, par exemple, le dioxyde de titane permet de réfléchir les rayons du soleil, alors que les filtres chimiques vont modifier dans la profondeur de la peau. Ceci étant, les filtres minéraux, ils sont blancs, ils sont épais, et donc c'est pas agréable, mais c'est efficace. Et après, le vêtement que vous allez mettre, il n'est pas en contact serré, et vous l'avez lavé plusieurs fois. Donc même si au début il était tout pourri, après il va être quand même mieux. Ensuite, ça dépend aussi quel textile vous achetez et vous mettez. Voilà, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Avec le chapeau, ça coûte pas cher et ça protège bien. Après ça, un chapeau, quand on fait du ski, c'est plus compliqué, mais bon. Alors, déjà, je vais répondre à votre dernière question. Est-ce que tous les produits d'entretien ne servent strictement à rien? Je dis oui. Après, est-ce que le ménage fait avec de l'eau fait une hygiène suffisante? Je réponds aussi oui, et je vais vous donner un exemple très simple, très clair. C'est-à-dire que dans les salles d'accouchement obstétricales où vous avez besoin de l'hygiène maximale, on fait le ménage avec de l'eau sous forme de vapeur. Et donc les nettoyeurs vapeur sont agréés par le contrôle sanitaire de l'établissement comme tuant tout ce qui pourrait être contaminant. Ceci étant, chez vous, vous n'avez pas besoin d'un nettoyeur vapeur, mais vous n'avez pas besoin de tuer toutes les bactéries non plus. Voilà, parce que l'organisme, il est fait pour se défendre si on stimule son immunité correctement, si on, petit à petit, évidemment, si vous avez la typhoïde ou bien si quelqu'un revient de je ne sais pas trop quel pays exotique et ramène chez vous des fesses contaminées, là, il faut faire quelque chose, on est bien d'accord. Mais l'eau de Javel, vous pouvez oublier totalement. C'est des destructeurs d'environnement.
Moi, j'ai une question, c'était est-ce que la charte bio, elle est universelle par rapport aux différents pays, etc.?
Alors non, par rapport aux différents pays, non. Et par exemple, juste un exemple sur bisphénol, ça a été, donc c'est pas charte bio, excusez-moi, je réponds un petit peu à côté, mais bisphénol a été interdit dans les biberons à partir de 2010-2011, interdit dans les contenants alimentaires à partir de 2015 en France. Et donc les boîtes de conserve que vous achetez qui viennent d'Europe ou d'ailleurs, elles peuvent tout à fait contenir du bisphénol. Donc il y a une solution assez simple. À ce moment-là, vous achetez des bocaux en verre ou voilà. Quand on cherche, on trouve des solutions dans vraiment beaucoup de situations. Après, il faut un tout petit peu chercher et un tout petit peu se bouger ou changer ses habitudes.
Bonjour, il y a plusieurs diapositives qui montraient un rôle possible sur le microbiote, enfin un effet possible sur le microbiote. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
C'est en cours d'étude. Mais c'est une voie de recherche extrêmement importante.
Bonjour, merci déjà pour cette passionnante et instructive conférence. J'avais deux questions concernant le miel bio. Est-il vrai que c'est une aberration dans la mesure où on ne peut pas contrôler simplement le butinement des abeilles et, enfin, est-ce qu'on peut certifier qu'un miel est vraiment bio finalement ? Comment est-ce que c'est ?
Alors tout dépend de ce qu'on appelle le miel bio, c'est-à-dire que c'est les pratiques de l'apiculteur. Donc comme malheureusement l'homme a introduit des parasites qui abîment fortement les abeilles, on est obligé de les traiter, de les protéger, soit par des produits chimiques, soit par d'autres moyens. Et c'est là que ça fait la différence entre l'apiculteur conventionnel et l'apiculteur bio. Ceci étant, effectivement, les abeilles, elles vont butiner à 1 km, 2 km autour de la ruche. Donc, si les ruches sont dans une zone sans pesticides, 2 km, oui, là, vous êtes tranquille.
D'accord, mais sinon, ça, on n'a aucun moyen de le vérifier quand on achète notre pot de miel.
Alors, c'est pas mal de discuter avec le producteur, par exemple. D'accord. Et de ne pas acheter des miels qui sont des rassemblements de tout un tas de trucs qui viennent de partout. À savoir que les deux tiers des miels achetés en France sont d'importation. Donc là, c'est tout et n'importe quoi. Hein.
Merci. Et ma deuxième question concernait le plastique, notamment dans les jouets. Dans quelle mesure, justement, on doit vraiment bannir les jouets en plastique pour les enfants ? À quel niveau, en fait, se fait le... Est-ce que c'est juste un simple contact prolongé avec un jouet ? Est-ce que c'est la mise en bouche ? Est-ce que c'est... Comment ça se passe et pourquoi c'est réellement dangereux ?
Alors, l'ANSES a fait des études sur les jouets plastiques chez les tout-petits, les 0-2 ans, en faisant des tests de contact avec la salive. Et là, les réglementations sont correctes. Le souci, c'est que dès qu'on dépasse cet âge-là, les réglementations tombent. Et donc, le gamin, il continue à mettre à la bouche. Voilà, peut-être un peu moins. Et si on peut, c'est vrai que s'il joue avec ses Legos, là, il n'y a pas trop de soucis. Puis les gamins, peut-être que maintenant, on peut aussi leur apprendre à se laver les mains.
Je rebondis sur le plastique. Est-ce qu'un jouet qui a vécu, enfin, d'occasion, par exemple, va émettre moins de perturbateurs au niveau du plastique ? Est-ce que ce serait une solution déjà ?
Alors, vous avez tout à fait raison, c'est intéressant. L'occasion, c'est très très bien sur les vêtements. Par contre, sur les vieux jouets, si vous récupérez les jouets de votre enfance, là, c'est pas idéal parce que les réglementations n'étaient pas les mêmes du tout. Donc, en fait, encore une fois, cette réglementation pour les tout-petits date d'il y a une dizaine d'années à peu près. Donc, les jouets récents sont mieux que les jouets anciens. Bon, s'ils ont été lavés, usés et tout, c'est mieux que s'ils étaient... Voilà, mais il faut un peu trouver...
Les moules en silicone, j'essaye de pas trop les utiliser, mais...
Alors, vous avez raison, parce que silicone, haute température, on stimule les échanges. Et donc, si on peut avoir des moules à tarte en verre ou en fer, c'est mieux. Après, pour faire des petits gâteaux, c'est sympa. Mais pas n'importe quel silicone. Surtout pas les bas de gamme, les colorés, les trucs, non. Il faut, là, vraiment, si vous prenez de la haute qualité de silicone, celui qui est noir ou il y en a un qui est rouge, je crois, là, ça peut aller. Disons que voilà, ça fait partie des choses qu'on n'utilise pas trop, trop souvent. Mais pareil, hein, les moules à cake, vous en avez en verre qui fonctionnent très bien.
J'ai une question sur le micro-ondes. On peut chauffer dans un récipient en verre, mais si on met le couvercle plastique pour éviter qu'il y ait des projections, est-ce que c'est une question de contact ou est-ce que ça diffuse aussi ?
Non, c'est plutôt le contact. Par contre, micro-ondes, il n'y a pas de souci de santé. Mais il semblerait, selon certains, je n'ai pas d'informations fortes à ce sujet, que ça diminue la qualité nutritionnelle de l'aliment qui est réchauffé. Bon, après, si c'est juste pour réchauffer, pas pour faire de la cuisine, on peut trouver des compromis. On est un peu toujours obligé de faire des compromis, hein.
Une autre question, est-ce que à l'adolescence, il y a des, comment dire, une sensibilité particulière ou un risque particulier sur, vis-à-vis de certains perturbateurs, ou est-ce qu'il faut prendre les mêmes précautions qu'avec un bébé, quoi ?
Oui, ouais. Même précautions qu'avec un bébé.
Pas de, tous. D'évolution.
Oui, j'avais une question parce que tu disais qu'il y avait en France, on n'est pas très bon pour la prévention, ça je suis bien d'accord. Mais est-ce que dans des pays, comme par exemple les pays nordiques qui travaillent beaucoup plus sur l'épidémiologie et la prévention, est-ce qu'on voit effectivement une diminution des pathologies ? Est-ce qu'on arrive à faire le lien entre des pays qui travaillent plus sur la prévention ?
Alors, je vais répondre un petit peu à côté, excusez-moi, mais au Danemark, ils ont des registres sur la fertilité des hommes, qui ont montré que ça dégringole comme ça. Malheureusement, en France, on n'a pas de registre. Comme ça, on ne sait pas ce qui se passe. Après ça, la prévention, c'est hyper important aujourd'hui parce que le nombre de produits est énorme et il y a toutes les interactions. Ceci étant, l'effet se fait sentir au long terme. Donc, évidemment, pour un responsable politique, de dire aujourd'hui, j'arrête tel produit ou je... il va se faire mal voir, voilà, parce qu'on va dire, oh là là, vous mettez les gens au chômage, tous les pauvres fabricants de pesticides, ils sont très tristes. Mais la diminution d'impact va être peut-être seulement dans 20 ans. Après ça, c'est une question d'éthique, hein. Moi, je ne sais pas comment font ces gens pour se regarder dans la glace tous les matins en vendant des produits hyper toxiques. Il y a un mystère.
Nous avons le temps encore pour au moins une question. Je ne sais pas qui veut la poser. Ça sera... Là, on arrive sur la dernière ou les dernières questions.
Moi, j'avais entendu dire qu'en Allemagne, par exemple, il n'y a pas dans les rayons des supermarchés de produits à base de Javel ou d'eau de Javel. Quand en France, on a le choix d'en acheter, mais ça pourrait passer par une loi, de toute façon, qui interdirait la vente au tout public, quoi.
Disons que l'eau de Javel, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ça se voit, ça se sent, on peut choisir d'en utiliser ou pas. C'est microscopique par rapport à l'ensemble des perturbateurs, hein.
Est-ce que vous avez des solutions pour évacuer les perturbateurs endocriniens dans le corps ? Par, admettons, par des plantes dépolluantes ou par des techniques d'alimentation ?
Disons que, ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message, c'est que une fois que le mal est fait, on essaye de ne pas en rajouter. Voilà. Donc si vous mettez un deuxième, un troisième, un dixième polluant, vous multipliez les risques par 10, par 100, par 1000. Ensuite, éliminer ce qui est fixé dans les cellules graisseuses, ce n'est pas possible. Et il y a eu, alors excusez-moi, ça ne va pas vous faire plaisir, mais il y a eu des maladies déclenchées par des cures d'amaigrissement sévères, des obèses qui ont maigri de 50 kilos. Donc ils ont relâché tous ces perturbateurs dans la circulation et là il y a eu des problèmes graves. Donc il vaut mieux ne pas prendre de poids plutôt que, enfin rester à un poids moyen quoi, plutôt que de faire des yo-yo.
Oui, moi je voulais savoir pour par exemple quand on veut congeler un produit, un autocongélateur, le récipient c'est quoi ? Alors c'est du verre ? Il faut prendre du verre ?
Ah non, congelé, il n'y a pas de souci.
Non, il n'y a pas de souci.
Non, c'est là, le chaud qui est embêtant.
On peut utiliser du plastique.
Ben, si vous mettez votre soupe chaude dans un sac en plastique, non.
Non, oui, d'accord, il faut attendre.
Si vous mettez des légumes froids dans le sac en plastique, dans le congélateur, vous les ressortez et ensuite vous les mettez dans la casserole, là, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci, d'accord,
non.
Ok, merci.
Il doit nous rester une minute ou deux que je voulais vous donner pour justement voilà, une petite conclusion, un mot de la fin, un message en tout cas à remporter dans nos maisons.
Un seul message, c'est très simple, moins c'est mieux. Voilà. Et pas de plastique, par pitié, pas de plastique. Parce que je ne vous ai pas tout dit sur le plastique, mais donc on a vu au niveau de l'approvisionnement, au niveau de l'utilisation, au niveau de la destruction, donc il y a deux possibilités. Soit on l'enfouit, donc il reste dans la terre pour au minimum 100 ans, si ce n'est plus. Donc les enfants en disent merci, n'est-ce pas ? Soit on le brûle et à ce moment-là, on produit des dioxines. Alors on peut éventuellement mettre des filtres, les incinérateurs ont des normes, etc. Pour autant, c'est quand même toujours toxique. Voilà, donc par pitié, pas de plastique. On peut utiliser des pots en verre, des bouteilles en verre. Il existe des biberons en inox, des thermos en inox, des boîtes pour pique-nique en inox. Il y a un site que je n'ai pas marqué qui s'appelle 100BPA, sans bisphénola, 100BPA. Sur lequel vous trouvez plein d'articles. Je n'ai pas d'action, je n'ai aucun intérêt d'aucune sorte.
Merci beaucoup, docteur. Donc, on vous a très bien écouté. Donc, le prochain café débat qui aura lieu dans un mois sera consacré aux plantes de montagne et comment cuisiner avec et comment les redécouvrir. Donc voilà, donc on sera bien dans cette même dynamique. Autrement, vous pouvez prendre autour de l'exposition. Il y aura plein de rendez-vous autour de l'exposition Mission Corps Humain, avec des rencontres à la fois artistiques, littéraires, mais aussi scientifiques. Donc vous avez le programme à la sortie, puis bien sûr, n'hésitez pas à aller visiter cette exposition. Bon appétit, merci et à bientôt. Au revoir.